France Culture.
Mais tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Mathieu Laurent. Rebonjour Mathieu.
Rebonjour Marie Laborie, bonjour à toutes et tous. Au sommaire, reportage à Damas, où nous prendrons la mesure des blessures et souffrances intactes des anciens prisonniers du régime de Bachar el-Assad, un an après la chute du dictateur. Invité du journal, Ariad Ranem, docteur en relations internationales à Sciences Po Paris, avec lequel nous prendrons le temps de nommer difficultés, défis et impasses des nouveaux dirigeants de la Syrie. En politique française, nous tenterons de relever intentions et positionnement des corps politiques à la veille de l'examen par les députés du volet dépenses suivi du vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Pas toujours facile d'y voir clair. Précision d'Adrien Toffolet. Nous nous rendrons à Bruxelles, où sous la pression de la droite et de l'extrême droite, les ministres de l'Intérieur des 27 vont se prononcer une première fois sur la nouvelle politique migratoire émise par la Commission européenne. Et puis l'ensemble des organisations syndicales du Louvre a voté dans la matinée un préavis de grève pour le 15 décembre. Grève reconductible après de nouveaux déboires. La fuite le 26 novembre dernier d'une canalisation qui a endommagé plusieurs centaines d'ouvrages. Le volet recettes a été adopté sans grande marge de manœuvre vendredi. Demain, ce sera au tour du volet dépenses. Il s'agit du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Volet recettes adopté vendredi en raison de l'absence de nombreux parlementaires. Deux parlementaires RN avant tout, doit-on s'empresser d'ajouter. Il faut s'attendre à une toute autre configuration demain. Notons l'incertitude à droite chez LR et Horizon. Renaissance et Modem vont voter pour. Sans surprise, LFI, RN et UDR s'y opposent. Les explications d'Adrien Toffolet.
Il est longtemps resté un musée des horreurs, ce budget de la sécurité sociale, aux yeux des socialistes qui ont répété ces dernières semaines de débats qu'ils feraient tout pour améliorer la copie. Aujourd'hui, à la veille du vote solennel, le patron du PS, Olivier Faure, invité de nos confrères de BFM TV, l'a qualifié de passable, autrement dit mieux que l'original, sans pour autant être 100% satisfaisante. Ce budget, ce n'est pas le nôtre, il n'est pas celui de Sébastien Lecornu non plus, mais le fruit d'un compromis, souligne le premier secrétaire. Plutôt favorable aux socialistes qui listent depuis hier les avancées obtenues à l'issue des débats, comme l'abandon du gel des pensions de retraite et des minima sociaux, la suppression du doublement des franchises médicales, la hausse de la CSG sur le capital et bien entendu leur totem de la suspension de la réforme des retraites. Pour maximiser les chances de voir ce texte adopté, dans un hémicycle particulièrement divisé avec un socle commun sur le point d'exploser, le PS n'a d'autre choix que de voter pour. La position sera discutée demain en interne en réunion de groupe, face à des troupes qui devraient suivre la consigne, à quelques exceptions près, comme le député de la Loire, Pierrick Courbon, qui annonce d'ores et déjà qu'il s'abstiendra, selon le principe qu'un député d'opposition ne doit jamais voter pour un budget, mais au mieux s'abstenir. Mais ce n'est pas dans les rangs socialistes que Sébastien Lecornu a le plus à craindre lors de ce vote, qui sera extrêmement serré. À gauche, les troupes d'Olivier Faure lancent déjà des appels à la responsabilité à destination des écologistes, eux qui ont voté contre la partie recette du PLFSS la semaine dernière. Le gouvernement prévoit un dernier geste envers eux avec un relèvement du budget des hôpitaux qui devrait être débattu demain en dernière minute.
Adrien Toffolet, invité de France 2 ce soir, Édouard Philippe devrait éclairer sur la position de ses troupes. La question du front républicain électrise la droite de l'abscisse quand Nicolas Sarkozy plaide pour un rassemblement le plus large possible sans anathème. Dominique de Villepin éructe erreur politique, erreur morale. Bruno Retailleau prend lui une union des droites par les urnes. Le chef de file de LR assure le RN fait partie de l'arc républicain. Qu'ils aillent au Rassemblement national, lance Xavier Bertrand, le patron de la région des Hauts-de-France. Gabriel Attal, chef de file des députés Renaissance, appelle les républicains à clarifier leur positionnement. En Nouvelle-Calédonie, après des débats passionnés, le Congrès émet un avis favorable sur le projet de loi qui doit encadrer la consultation des Calédoniens à propos du processus de Bougival. L'accord validé le 12 juillet en région parisienne au terme de 10 jours d'intenses négociations prévoit notamment la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution française et une nationalité calédonienne. Il a depuis été rejeté par les indépendantistes du FLNKS. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, la valeur du marché des substances illicites a presque triplé entre 2010 et 2023, avec une place prépondérante du cannabis et de la cocaïne qui occupe 90% du chiffre d'affaires total évalué à 6,8 milliards d'euros.
Il est encore question d'un trait d'union entre droite et extrême droite, mais cette fois, Mathieu, à l'échelle européenne.
Réunis aujourd'hui à Bruxelles, les ministres de l'Intérieur des 27 se prononcent en effet pour la première fois sur trois textes présentés par la Commission européenne qui traitent de la politique migratoire de l'Union. Et là encore, lourdes furent les pressions de l'extrême droite. À telle enseigne que les textes proposés font bondir les structures au chevet des migrants. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Pierre, en direct de Bruxelles. Pierre, quels sont les outils et les enjeux de cette nouvelle politique migratoire de l'Union européenne qui, pour en dire un peu plus, selon les ONG, méprise le droit international ?
Oui, parce qu'il y a d'abord effectivement ces outils désormais sur la table. Ils constituent un véritable durcissement des politiques migratoires. Le premier chapitre, c'est ce qu'on appelle la directive retour, c'est-à-dire la façon dont l'Union européenne traite ceux qu'elle décide de ne pas accepter sur son territoire. Trois aspects emblématiques de ce texte sont à pointer. Premier point, le renforcement de sanctions avec un allongement des placements en centre de détention pour ceux qui refusent de quitter l'UE. Deuxième point, la politique dite des pays sûrs. L'Union établit une liste de pays tiers où elle juge satisfaisant les conditions de sécurité, le respect des droits de l'homme ou de l'état de droit. Elle s'autorise ensuite à y renvoyer les migrants, même s'ils n'en sont pas originaires. Et le dernier point est celui qui crée encore plus de crispation, c'est celui des plateformes de retour, à l'instar du centre ouvert par l'Italie en Albanie. Les pays de l'UE seraient autorisés à passer des accords avec des pays tiers pour y installer ces plateformes de retour, c'est-à-dire des centres vers lesquels seraient renvoyés les migrants dont la demande d'asile a été refusée. Et puis vous le disiez, il y a ensuite des enjeux, ils sont très politiques, les gouvernements de la majorité des 27 États de l'Union ne veulent pas se laisser enfermer dans un chantage avec les partis de droite dure et d'extrême droite qui détiennent environ 30% désormais des sièges au Parlement européen, car eux-mêmes ont déjà leur propre marchandage inextricable sur le deuxième chapitre du pacte asile et migration, à savoir le mécanisme de solidarité, ce mécanisme qui doit permettre de répartir les migrants sur l'ensemble des 27 pays au lieu de les voir cantonnés dans les pays de leur entrée en Europe.
Merci à vous, Pierre Benazet, en direct de Bruxelles, par la voix de son chef des opérations humanitaires. L'ONU fustige, je cite, l'apathie du monde face aux souffrances de millions de personnes à travers la planète en lançant un appel humanitaire 2026 largement restreint pour répondre à des financements en chute libre. C'est une époque de brutalité, d'impunité et d'indifférence, lance Tom Fletcher, dénonçant la férocité et l'intensité des tueries, le mépris total du droit international et les niveaux terrifiants de violences sexuelles. L'ONU, dont l'agence en place en Palestine a été perquisitionnée ce matin, UNRWA, l'agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens, dont les bureaux ont reçu la visite de policiers qui ont pénétré dans son siège à Jérusalem-Est, territoire, je vous le rappelle, occupé et annexé. Les précisions de notre correspondant au Proche-Orient, Thibault Lefebvre.
Il n'y avait pas d'employés de l'UNRWA ce matin à Jérusalem, juste une société de sécurité et des vigiles qui n'ont bien entendu pas pu s'opposer parce que les activités de l'agence ont été déplacées à Amman en Jordanie au début de l'année et c'est de là qu'un des porte-parole de l'UNRWA, Jonathan Fowler, a suivi la perquisition.
C'est une pénétration de force dans des locaux d'une agence des Nations Unies. Ça va à l'encontre totalement du droit international. Qui peut dire que ça ne va pas toucher aux autres agences des Nations Unies demain, dans deux semaines, et ensuite éventuellement aux consulats des pays qui, entre guillemets, posent problème. Donc c'est très grave pour le multilatéralisme et pour la diplomatie internationale. On peut dire que c'est effectivement pour nous virer de la scène, pour ensuite attaquer aux grandes problématiques, entre guillemets, du statut des réfugiés.
Le statut de réfugié d'une partie des Palestiniens qui leur rouvre un droit au retour sur des terres dont ils ont été chassés en 1948 à la création de l'État hébreu. Situation évidemment insupportable pour l'actuel gouvernement de Benjamin Netanyahou. À noter que vendredi dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a renouvelé le mandat de l'UNRWA pour 3 ans, ce qui explique peut-être le coup de colère israélien et la perquisition de ce matin.
Thibault Lefebvre à Jérusalem.
Il y a un an, jour pour jour, au terme d'une conquête éclair qui a commencé dans le nord-ouest syrien, Bachar el-Assad fuyait le pays.
Chassé par les combattants islamistes d'Ayat Tahrir al-Sham, désormais au pouvoir, ce lundi, premier anniversaire de la libération, célébré depuis quelques jours, mais pas partout. Festivités interdites dans le nord-est aux mains des Kurdes, mais aussi en terre alaouite sur la côte syrienne, où des massacres de civils ont fait 1500 morts en mars dernier. Le sud et la minorité druze en rupture avec Damas ne participent pas aux célébrations. En juillet dernier, là-bas, des tueries ont causé la mort de centaines de personnes. Moyennant quoi, les grandes artères de la capitale Damas sont bordées d'affiches, noircies de cette respiration proposée. L'ère des ténèbres est révolue. Et si c'était encore le temps du clair-obscur, le spectre de la dictature survit et hante les esprits, à commencer par ceux des victimes du régime détrôné. Personne n'a oublié les images de ces prisonniers hagards, le corps squelettique, sortant de la prison de Sednaya, surnommée l'abattoir, tant l'ex-président syrien Bachar el-Assad en avait fait sa machine de mort et de torture. Comment se reconstruire après l'enfer de Sednaya? Martin Troadec et Marie-Pierre Véraud sont allés au siège de l'Association des anciens prisonniers, fondée après la chute du régime.
La salle du soutien psychologique, celle pour les cours d'économie ou d'informatique, le bureau de l'avocat, et Emad El Jamal, l'un des fondateurs, sait que les besoins sont immenses. Lui-même a été sauvé par la chute de Bachar al-Assad alors qu'il devait être exécuté.
Le plus important, c'est que nous puissions revenir au sein de la société. Aujourd'hui, nous vivons encore dans la tragédie. Tous ceux qui étaient en prison, sans exception, nous avons toujours des traumatismes psychologiques. Juste après notre libération, nous ne comprenions plus rien. Ce qui avait de la valeur pour nous n'en avait pas dans la société.
Il montre la table devant nous.
Avant, ces biscuits ou ce café n'avaient pas de valeur pour nous. Mais maintenant, nous voyons la nourriture comme un don de Dieu. Si nous voyons quelqu'un qui mange un sandwich dans la rue et en jette la moitié, vous savez, en prison, cette moitié aurait nourri 10 personnes.
Non, c'est trop court pour revenir à la vie normale.
De nombreux prisonniers n'ont toujours pas réussi à se réinsérer dans la société. Ils souffrent d'une espèce de dissociation mentale. Ils pensent qu'ils appartiennent toujours à la prison.
C'est pourquoi, si l'association se veut un lieu de mémoire qui documente les crimes de Sednaya, elle est aussi un lieu de réconfort où les anciens prisonniers se retrouvent entre eux pour partager leur tragédie. Car personne d'autre, disent-ils, ne peut vraiment comprendre ce que nous avons vécu.
Reportage Martin Troadec, Marie-Pierre Véraud. Bonjour Ariad Ranem.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur scientifique du programme MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord à Sciences Po Paris. Il y a un an, l'apparente facilité avec laquelle le régime al-Assad s'effondrait portait l'annonce d'un profond renouvellement en Syrie. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui? À quel point peut-on dire que la vie a changé en Syrie?
La vie a changé déjà parce que une dictature de plus de 50 ans a pris fin le 8 décembre 2024, quelque chose qu'on n'imaginait pas, qu'on n'osait même pas rêver quelques mois ou années auparavant. Donc ça, c'est un changement majeur et qu'il faut effectivement célébrer. La vie a changé parce que depuis, il est possible de s'exprimer un peu plus librement en Syrie, de dire un peu mieux ce qu'on pense sans avoir peur de ce système concentrationnaire et sécuritaire des violences de Sednaya que votre reportage rappelait. Donc il y a eu des changements, il y a bien sûr un processus de transition qui est très difficile, qui fait face à des défis très importants et qui est assez entravé. Et on a du mal encore à voir exactement dans quelle direction on va aller en matière de justice transitionnelle, de réconciliation et de reconstruction notamment.
Et je crois savoir que vous seriez-vous pour que celles et ceux de l'ancien régime, comme ceux qui aujourd'hui commettent des actes délictueux, soient jugés de la même manière?
Tout à fait. C'est tout le processus de justice transitionnelle qui est absolument fondamental. Et son absence, en fait, explique en partie qu'il y ait toujours des violences aujourd'hui sur le terrain, dans la continuité de ces plus de dix années de guerre qu'on a traversées dans le pays.
Oui, 2011-2025.
Exactement. Donc il faut, à défaut d'une justice transitionnelle équilibrée dans lesquelles les crimes passés, mais aussi effectivement les continuités et les logiques de vengeance, de revanche, sont adressées. Si on n'a pas ça, on va rester dans des logiques de représailles avec les enlèvements et les exactions qui se poursuivent.
Ariad Ranem, représailles parce que après la chute du régime, dans les administrations, j'ai prononcé un mot redoutable, épuration n'a pas eu lieu. Enfin, il y a encore en place, n'est-ce pas, des gens qui ont commis le pire sous l'ancien régime.
Alors là-dessus, il y a une forme d'inégalité assez surprenante, c'est-à-dire que d'un côté, il y a effectivement toujours dans certaines structures judiciaires, par exemple des juges, qui appartiennent à l'ancien régime. Certains ont même contribué à juger les crimes de mars dernier lors du procès à Alep il y a quelques semaines. D'un autre côté, on a des personnes, par exemple des médecins dans certains hôpitaux, qui ont, elles, été licenciées sur des bases assez ambiguës, avec une suspicion très forte que c'était dû en fait à leur appartenance, par exemple, à la communauté alaouite. Donc là-dessus, il y a un déséquilibre assez étonnant.
Ahmed al-Shara a d'immenses défis, vous l'avez un peu abordé, en matière de politique intérieure. Quelle clé peut-il proposer pour mettre un terme, au moins momentanément, le temps d'une réconciliation possible à ces violences intercommunautaires? Est-ce qu'il a les outils, les moyens, les appuis?
Il a assez peu de leviers en main aujourd'hui, Ahmed El-Sharaa. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il en a moins aujourd'hui qu'il y a un an. Il y a un an, il y avait un moment qu'on pourrait dire unanimiste, parce que plus personne ne voulait de Bachar el-Assad. Et bien sûr, les logiques de violence et d'autoritarisme et la répression très brutale du régime d'Assad avaient laissé des séquelles qui allaient être très difficiles à dépasser. Mais tout de même, une forme d'inclusion et de réconciliation aurait pu peut-être avoir lieu. Le choix a été fait de continuer de compter sur des factions très radicales, des milliers de combattants étrangers qui sont toujours présents en Syrie, dans une logique contre-insurrectionnelle, parce qu'on a peur justement des groupes qu'on appelle les minorités et de ces groupes qui voudraient sortir un peu de l'autorité des Assad. Donc aujourd'hui, on est dans une impasse, aussi bien sur les sujets de la justice que sur le sujet des factions illégales qui sont présentes sur le terrain. On voit difficilement qu'est-ce qui pourrait nous sortir de là.
Peut-être un isolement de la scène internationale auquel Ahmed El-Sharaa travaille. Qu'en diriez-vous de ces tentatives? Il y a eu cette visite toute symbolique à la Maison-Blanche à Washington, mais qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière de solide?
Il y a une agilité qui est très, très forte. Ahmed El-Sharaa, c'est un très bon diplomate. Ça a été sa priorité dès les premiers jours après la chute d'Assad, d'accueillir des délégations européennes, puis de commencer à faire ses premiers voyages officiels, avec en ligne de mire la levée des sanctions, ce qui est tout à fait compréhensible. Et il est heureux que les sanctions se lèvent petit à petit, même si malheureusement les effets positifs tardent à se faire voir. Donc il y a une priorité qui a été accordée à ça. Mais Ahmed El-Sharaa a très peu de leviers. Il a surtout des gages à donner en fait à ces différentes puissances, que ce soit les États-Unis ou la France sur les sujets sécuritaires de gestion du terrorisme qui réémerge en Syrie, que ce soit aux pays du Golfe sur la gestion d'un problème de santé publique énorme qu'est le trafic de captagon que le régime d'Assad avait fait fleurir ces dernières années. Donc il a beaucoup de gages à donner à Ahmed El-Sharaa et très peu de ressources avec des éléments perturbateurs qui viennent du sud par Israël et du nord par la Turquie aussi.
Voilà, unifier le pays. Ariad Hanem, en quelques mots, malheureusement, 80% de la population syrienne, selon les derniers relevés, sous le seuil de pauvreté. Est-ce que là encore, il y a dans l'horizon immédiat des embryons de solutions?
C'est difficile à dire parce que les infrastructures sont complètement décimées. Et ça, c'est hérité en grande partie des Assad. Il y a de plus en plus de gens qui sont pauvres aujourd'hui en Syrie. Et c'est le fait de cette économie de guerre et de prédation et de trafic qui avait été montée par les Assad ces dernières années.
Merci beaucoup, Ariad Hanem, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique du programme MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, à Sciences Po Paris. Merci à Loïs Guérin pour la préparation. Refermons cette édition avec cet appel à la grève émis par l'ensemble des organisations syndicales du Louvre. Préavis de grève le 15 décembre, grève reconductible après de nouveaux déboires. La fuite le 26 novembre d'une canalisation qui a endommagé plusieurs centaines d'ouvrages. Sa présidente, Laurence Descartes, présidente du Louvre, voit donc s'ouvrir un nouveau front. Bonjour Faouzi Trita.
Bonjour.
Faouzi, ce préavis de grève dit toute l'exaspération des employés du Louvre.
Oui, puisque les syndicats du musée du Louvre disent dénoncer depuis longtemps la politique d'établissement, bien avant que ne commence cette spirale négative, avec le spectaculaire cambriolage, bien sûr, du 19 octobre dernier, les fermetures régulières de galeries, comme la galerie Campana, le 17 novembre, à cause de la fragilité de certaines poutres, et la fuite d'eau, donc, du 26 novembre, qui a abîmé plusieurs centaines d'ouvrages de la Bibliothèque des Antiquités égyptiennes. Christian Galani est le représentant du personnel du Louvre et membre du bureau national de la CGT Culture.
Chaque jour, le musée ne peut pas ouvrir à la hauteur de ses ambitions parce qu'on manque d'effectifs. S'agissant de l'emploi, moi je vous rappelle quand même qu'en 15 ans, on a perdu 200 emplois. Et nécessairement, pour exercer nos missions de service public, lorsque la fréquentation augmente, évidemment, ça rend les conditions plus difficiles. Le musée est délabré, c'est des fuites d'eau, c'est du matériel qui n'est pas, notamment en matière de sûreté, suffisamment adapté pour nous permettre d'exercer nos missions de service public.
Les syndicats qui dénoncent aussi avec force la tarification différenciée entre les ressortissants européens et les autres.
On instaure une discrimination qui n'a pas lieu d'être. Et pour le coup, on fait payer notamment à ceux qui ne sont pas ressortissants de cet espace la rénovation du Louvre et en particulier le financement du schéma directeur sûreté. Alors que cette situation-là, elle est le fruit d'un certain nombre de turpitudes qui se sont accumulées au fil du temps et qu'il ne s'agit pas de faire payer aux non-ressortissants de l'espace économique européen.
Et à présent, avec cette grève reconductible qui doit démarrer lundi prochain, eh bien les syndicats espèrent obtenir des réponses directement de la ministre de la Culture, Rachida Dati.
Merci à vous, Faouzi Trita. Quelques mots de la météo de l'après-midi. De la Bretagne à la Normandie et des Hauts-de-France jusqu'au nord du Grand Est, temps très nuageux à couvert et souvent pluvieux. Des pays de la Loire jusqu'au sud du Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, en passant par la région parisienne et le centre Val-de-Loire, couverture nuageuse moins compacte sur la moitié sud, de belles apparitions du soleil. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois, à la technique Ludovic Auger.